82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria, pour un sujet brûlant. On va parler de la pertinence du patrimoine des bailleurs sociaux pour le développement numérique du territoire. Cette fracture numérique, on le sait, les Français sont attachés à leur smartphone, à leur tablette, à tous leurs outils numériques. Et pourtant, on a encore des zones blanches. Heureusement, des opérateurs sont là pour couvrir l'ensemble du territoire et même pour peut-être aider les bailleurs sociaux en plaçant des antennes relais qui diffusent ensuite, eh bien, les ondes qui nous permettent justement d'avoir tous ces outils numériques. Pour autant, quels sont les freins à ces déploiements sur le parc des bailleurs sociaux? Quels sont les avantages à être accompagnés dans ces développements par un intégrateur tel que TDF? Quelles sont aussi peut-être les réticences de certains habitants, leurs inquiétudes par rapport à la 4G, la 5G, certains fantasmes qu'on va essayer, voilà ce qu'on va essayer de discuter avec l'ensemble de nos invités. On est ravis d'accueillir Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Un autre maire à vos côtés, Philippe Cochet. On n'est pas très loin de Lyon, juste un peu au-dessus. Maire de Caluire-et-Cuire, conseiller métropolitain. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Philippe Martin également, directeur de FDI Habitat, adhérent de Procivis. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes du côté de Montpellier.
Oui.
Voilà, merci à vous d'avoir fait le voyage. Et enfin, Antoine-Paul Savelli, directeur immobilier et infrastructure de TDF.
Bonjour.
Et on va démarrer avec vous, Antoine-Paul Savelli, pour nous parler de TDF. TDF qui remonte à assez longtemps. Alors on ne connaît pas très bien, c'est pas grand public comme opérateur, comme technicien. Qu'est-ce que vous faites exactement chez TDF? Je le dis, ça remonte à loin, puisque TDF, ça date de l'ORTF. Ça rappellera des souvenirs aux plus anciens.
Tout à fait. En fait, TDF est un opérateur d'infrastructure engagé depuis très longtemps sur la collectivité et le déploiement du numérique, puisque initialement nous avions déployé le réseau de télé et de radio que nous exploitons toujours pour couvrir toute la France et la métro et les Outre-mer en médias. Depuis une vingtaine d'années, nous avons mis à disposition des opérateurs télécoms notre infrastructure pour accueillir les réseaux téléphonie mobile.
Oui.
Et nous continuons notre déploiement en travaillant avec les partenaires et les bailleurs sociaux pour étendre cette couverture sur des infrastructures qui ne nous appartiennent pas en propre et qui permettent de valoriser le patrimoine des bailleurs sociaux.
Voilà, donc télé, radio à la base, on est bien placé ici, même si on est sur une radio digitale. Aujourd'hui, on a besoin de ces outils numériques pour accéder justement, je le disais, à tous les services numériques évidemment. Ça veut dire qu'on a de plus en plus besoin d'antennes, et ces antennes souvent, elles sont alors soit en rase campagne, mais au cœur des villes, sur les immeubles.
Tout à fait. Le patrimoine urbain aujourd'hui est au cœur des stratégies de déploiement des opérateurs télécoms. Alors nous, TDF, nous n'exploitons pas ces antennes, c'est vraiment le métier des Orange, SFR, Bouygues et Free. Par contre, nous nous positionnons comme un acteur neutre qui fait le lien entre le bailleur social, entre les collectivités et les opérateurs pour assurer un déploiement dans les meilleures conditions, qu'elles soient techniques, environnementales, de discussion avec les partenaires, les locataires, qui sont un vrai enjeu, et on en parlera, je pense, avec notre thème des bailleurs sociaux.
Oui.
Donc voilà, TDF est au milieu de cet acteur. On essaie d'être un tiers de confiance pour tous les partenaires.
Philippe Martin, je me tourne vers vous, directeur de FDI Habitat. Un mot d'ailleurs justement de FDI Habitat, est-ce que vous pouvez nous décrire la structure? On va brancher votre micro. Allez-y.
Dans FDI Habitat est une petite société HLM qui a un patrimoine de 7000 logements qui est réparti sur le territoire héraulté avec 3000 logements sur la métropole de Montpellier principalement. Nous avons signé l'an dernier avec TDF un partenariat justement pour équiper les potentielles toitures de nos résidents. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a besoin d'un opérateur un petit peu neutre pour accompagner et engager les discussions à la fois avec les collectivités locales et avec les locataires, puisqu'on se rend compte à l'usage qu'effectivement la concertation et l'explication sont le maître mot dans le déploiement des infrastructures, puisque l'infrastructure est de téléphonique, puisque effectivement, comme on le disait précédemment, tout le monde veut que le téléphone marche, mais personne de l'antenne se sent tôt.
Et voilà, c'est vrai que ces antennes, ça peut faire un petit peu peur. Expliquez-nous, justement, pour vous, Bayer Social, justement, quel est l'apport, finalement, de TDF ? C'est quoi ? C'est une aide ? C'est une sorte de redevance ? Comment ça fonctionne ?
C'est une source de revenus, puisque TDF, on loue de nos toitures à TDF, qui, effectivement, fédère ou travaille avec les opérateurs pour installer les antennes sur le toit. Nous, ça nous permet d'avoir des revenus complémentaires à notre activité, et revenus complémentaires dont on fait partager les bénéfices avec les résidents. C'est aussi un plus à cette époque où les charges locatives augmentent. Donc on diminue les charges locatives de la résidence par une quote-part de la participation qui nous est versée par TDF.
Donc voilà un partenariat gagnant-gagnant, même si on va le voir, il peut y avoir des réticences. Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, on est dans les meilleurs quartiers, citez-les pour ceux qui connaissent.
Le deuxième arrondissement, en fait, vous avez plusieurs quartiers. Vous en avez un qui est aujourd'hui en construction, qui a été commencé, je dirais, par Gérard Collomb. C'est tout le quartier de la Confluence.
La Confluence, bien sûr.
Après, on a évidemment
Confluence, autour de la gare de Perrache. Les deux fleuves. Hein,
exactement. Exactement. Et puis après, vous avez le quartier un petit peu historique d'Ainay. Et puis vous remontez la place Bellecour, les Cordeliers, jusqu'à Saint-Nizier, qui est géré juste au sud de la place des Terreaux. Voilà un petit peu le deuxième arrondissement, 33 000 habitants.
Ouais, 33 000 habitants, c'est vraiment le centre de cette belle ville de Lyon, avec des prix évidemment à l'avenant qui s'envolent. Une question justement connexe, bien évidemment. Est-ce que vous êtes aussi dans cette perspective, évidemment, tout le monde a besoin de son internet au jour le jour. Est-ce que c'est aussi une problématique que vous trouvez au cœur de la ville, de équiper où il y a suffisamment de densité aujourd'hui des réseaux?
Aujourd'hui, on a très peu de zones blanches sur le centre-ville de Lyon. En tout cas, moi, j'en ai pas constaté particulièrement. Après, c'est vrai que la donne a un petit peu changé depuis 2 ans, puisque à la ville de Lyon, maintenant, nous avons les écologistes qui gouvernent. Et c'est vrai qu'eux, pour le coup, c'est un vrai sujet sur lequel ils s'interrogent, parce qu'on sait qu'il y avait eu notamment un moratoire sur la 5G. Ça a été pour eux un vrai axe fort de leur campagne. Et là où nous, de l'autre côté, je dirais groupe d'opposition, moi je fais partie des Républicains, on est plutôt dans la logique de dire pour attirer de nouvelles entreprises, pour attirer, de nouvelles personnes sur cette métropole qui est extrêmement dynamique, on a besoin d'avoir les dernières technologies, on a des grandes entreprises, on a des grands laboratoires pharmaceutiques dans le quartier de Gerland. Pour continuer d'attirer tous ces emplois et toutes ces grandes entreprises, on a besoin d'être à la pointe, et pour être à la pointe, il faut investir massivement sur ces dispositifs.
Investir massivement, ou du moins avoir ces installations et ces infrastructures pour que Calure et Cuir, monsieur le maire, comment ça se passe? Là aussi, on va pas se passer non plus là, je sais pas, de la 5G, mais déjà de la 4G.
Et puis surtout, je crois qu'il y a une évolution au niveau de l'acceptabilité, notamment des antennes. Moi, j'ai connu la première période où, quand il y avait une antenne, il y avait automatiquement donc un collectif qui s'organisait pour dire « attention, c'est dangereux », etc., etc. Aujourd'hui, on en est maintenant, et surtout la démarche que la commune de Calure et Cuir a organisée, ça a été de faire, en fait, 2 fois par an, un certain nombre de mesures par rapport aux antennes qui existent et par rapport au périmètre où celles-ci émettent. Et donc, ça a permis d'objectiver les choses, parce qu'après, vous savez, la complexité dans ce genre de domaine, c'est que le fantasme prend le pas sur la réalité. Et donc, aujourd'hui, on est confronté non pas à un problème de développement, et je remercie effectivement, parce que quand il y avait des zones blanches, on a connu la période de zones blanches, et nos concitoyens nous interpellaient à juste titre en disant « Mais comment se fait-il? On est à côté de Lyon. Comment se fait-il que nous ne soyons pas couverts donc aujourd'hui par la 3G à l'époque, puis la 4G ?» Et aujourd'hui, ça n'est plus vraiment le cas. Mais par contre, on est confronté à un autre sujet, alors, qui est connexe, c'est qu'une partie de la population est très éloignée de tout ce qui concerne en fait le numérique. Et donc le rôle de notre commune, et aujourd'hui au niveau de Calure et Cuir, ce que nous avons mis en place, ce sont des médiateurs qui permettent progressivement, n'oublions pas qu'il y a presque un quart de la population française qui est éloignée de tout ce qui touche au numérique.
C'est vrai.
Et ils voient un certain nombre d'équipements qui sont en train de se faire, et eux restent à côté de tout ceci. Et justement, on a mis en place un système qui permet progressivement d'amener un certain nombre de membres de la population à dire, regardez, vous n'êtes pas exclus, on essaye au contraire de faire en sorte que vous soyez un peu plus à l'aise. C'est un travail de long terme, mais n'oublions pas qu'il y a quand même un quart de la population française française qui se sent exclu et qui parfois n'est plus en capacité d'exécuter des actions toutes simples.
Ouais. Et actions toutes simples, on les rappelle, hein, parce que c'est le digital, le numérique, il est dans nos vies tous les jours. Ça va être la banque où on ne va plus, ça va être maintenant l'affranchissement postal qu'on peut faire, mais ça peut être aussi les impôts, ça peut être des choses, bien sûr, qui concernent directement la ville. Je veux revenir justement sur ces arguments ou contre-arguments sanitaires. C'est vrai qu'on a quand même des fois des engouements comme ça, ou des moratoires de certains qui disent non, cette nouvelle technologie, la 5G, on la maîtrise pas, c'est ultra dangereux. Alors je vous passe tous les délires avec les injections de vaccins qui nous donneraient automatiquement la 5G. Moi j'aimerais bien, pourquoi pas. Comment on fait pour démonter ça, pour expliquer?
Je pense qu'il ne faut pas nier le fait qu'une nouvelle technologie inquiète. On a vécu la même chose sur la 3G, la 4G, donc il faut d'abord expliquer aux gens à quoi elle sert et comment on la maîtrise. Il faut savoir que les normes d'exposimétrie sont très contrôlées. Il y a des normes mondiales, des normes françaises, et il y a la possibilité de demander à l'ANFR de faire des contrôles d'exposition en tout point si on pense qu'il y a une antenne qui émet plus que raisonnable. En 2020, sur l'ensemble des contrôles qui ont été faits par l'ANFR, aucun n'a montré une exposition supérieure à 1 volt par mètre. Et il faut savoir que la norme, elle est entre 30 et 60 volts par mètre en fonction de la bande de fréquence qu'on utilise. Donc 1 volt par mètre versus 30 à 50, on est nous-mêmes en France très protégés par des lois qui contraignent une action volontaire des opérateurs télécoms de diminuer la puissance de leurs antennes, quitte à démultiplier, et ça c'est la contrepartie, c'est-à-dire que si on met, les antennes sont moins puissantes, on va en mettre un petit peu plus.
D'accord.
Donc ça augmente le problème d'acceptabilité visuelle, par contre le risque diminue très fortement pour les concitoyens.
En préparant cette émission, j'ai appris qu'il y avait plus de risques finalement en étant en face du micro-ondes pendant qu'on faisait réchauffer son plat cuisiné, ou même peut-être en face de son ordinateur comme je suis actuellement, que finalement avec l'antenne 5G sur le toit.
Alors tout à fait, tous nos équipements électroniques rayonnent, donc en effet, et certains sont très proches de nous, on a des téléphones portables dans les poches, on a beaucoup d'équipements électroniques, une antenne elle est sur le toit, elle est réglée pour être complètement inoffensive et elle est contrôlée, et le rôle de TDF en tant qu'acteur neutre, c'est aussi de garantir au bailleur social et à la mairie que, une fois que l'antenne sera installée, elle aura été installée conformément au cahier des charges techniques qui avait été fait par des experts en amont, et donc que le risque pour la population, qu'elle soit en dessous ou en face de l'antenne, est complètement nul selon les normes.
D'accord. Philippe Martin, est-ce qu'on arrive à l'expliquer facilement aux habitants? Est-ce qu'il faut faire de la pédagogie? Est-ce que, notre ami Antoine Paul s'avait dit, il est complètement inaudible par certains qui dit de toute façon...
On n'y arrive pas toujours. Il faut essayer, on n'y arrive pas toujours. C'est vrai que c'était plus compliqué à l'origine sur les anciennes installations qu'aujourd'hui. C'est vrai que les mentalités évoluent. Toujours est-il, c'est que aujourd'hui, nous, on n'ira pas et on ne peut pas aller contre les locataires. Ça veut dire que si on a enlevé le bouclier, tant pis, on ira s'installer ailleurs, on travaillera ailleurs. Mais on ne peut s'installer ni contre l'avis des locataires, ni contre l'avis de la collectivité, parce que certaines collectivités aussi nous mettent des contraintes en termes esthétiques et en termes d'esthétique d'antenne, même l'esthétique soit améliorée, mais aujourd'hui, comme je disais en préambule, aujourd'hui tout le monde doit être fédéré autour de ces projets-là et on n'ira pas contre ni la collectivité ni les locataires.
D'autant que vous le disiez, ça représente une manne assez importante. Aujourd'hui, on sait, on est face à une flambée des coûts, alors énergie, mais des charges de copropriété d'une manière générale. Là, ça peut permettre de réduire la facture de manière significative, Martin.
Ça, c'est chaque bailleur social gère le sujet comme il veut, effectivement. Les redevances qui sont versées par l'installation, aujourd'hui, soit le bailleur en bénéficie et s'en sert pour le développement de l'entreprise, mais nous, il nous a semblé important de faire partager aux locataires de la résidence une partie de cette redevance-là, qui permet aussi d'augmenter l'acceptabilité pour les locataires en place.
Philippe Cochet, justement, sur ce thème d'acceptabilité.
On est confronté à une réalité, c'est aujourd'hui la légitimité qui est remise en cause pour quel que soit niveau. Sur le, on l'a vu par exemple, vous citiez le cas du vaccin.
Oui.
Aujourd'hui, ce que disent les opérateurs, les gens ne le croient pas. Et c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure d'objectiver les choses, et c'est pour ça que les fantasmes, comme évoquait Pierre-Oliver à l'instant, concernant les Verts qui dirigent la métropole de Lyon, ils sont contre la 5G. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des décisions d'installation qui se font en fonction de la qualité numérique que l'on trouve sur un territoire. Mmh. Et à partir de là, dès l'instant où on objective les choses, d'abord, ça permet une meilleure acceptabilité. Deuxièmement, c'est respecter, bien évidemment, les locataires dans cette démarche-là. Et troisièmement, on arrive enfin à faire concilier cette attente qui est totalement opposée, c'est-à-dire, je veux avoir une performance numérique, mais par contre, c'est mieux sur le toit du voisin et si possible, à 2 km de chez moi. Donc, ça n'est pas possible. Et comme vous l'avez indiqué, il y a plus aujourd'hui, il y a une multiplicité aujourd'hui des antennes, mais qui ont un voltage qui est plus faible. Dernier point qui me semble également important, si on vivait dans un monde idéal, ce serait bien que les 4 principaux opérateurs arrivent à se mettre d'accord pour avoir une antenne commune. Mais bon, je ne sais pas si on vit, si c'est souhaitable, si c'est souhaité, si c'est techniquement possible, mais ça simplifierait, je pense, pas mal de choses.
Alors, techniquement, ce n'est pas évident, hein, je crois, parce qu'il faut qu'ils rayonnent dans toutes les directions, chaque antenne. Donc, il pourrait y avoir des faisceaux qui se croient. Je ne suis pas technicien.
Techniquement, ça peut exister. Maintenant, chaque opérateur a sa structure de réseau. Il faut ensuite renvoyer le signal vers le réseau de chacun des opérateurs. Ensuite, ils sont concurrents. Hein, donc, forcément... trivialement, ils se tirent un petit peu la bourre, surtout des zones extrêmement denses comme Lyon, comme Caluire. Je dirais que ce n'est pas à moi aujourd'hui de me prononcer sur la faisabilité d'une telle option.
Oui, mais on peut avoir des choses effectivement comme
Si je peux me permettre, il existe aujourd'hui RTE au niveau de l'énergie électrique qui gère en fait la structure de diffusion, et après les acteurs peuvent être bien sûr divers et variés. Est-ce que c'est une question, mais simplement imaginez bien que pour l'aménagement du territoire, c'est plus compliqué de gérer 4 antennes qu'une. Voilà.
C'est vrai. Et puis ce que vous disiez, Philippe Cochet, effectivement, sur la construction des antennes, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu, mais pour la construction tout seul. Hein, c'est-à-dire, je veux bien qu'on construise, mais dans le village d'à côté. Pierre-Oliver, comment on dépasse justement ce clivage entre un peu idéologique posé, d'un côté attention, santé, warning, on fait rien parce que pour l'instant on n'est pas sur de la techno, ben, ça peut prendre des années. Et justement, ce que vous expliquez, c'est-à-dire des entreprises qui sont là, qui veulent avancer, qui ont besoin de ce numérique pour se développer.
Je dirais qu'il y a quand même plusieurs choses. Dans un premier temps, et Philippe Cochet l'évoquait un petit peu tout à l'heure, je pense qu'il y a une sensibilisation au sens large. Mmh. On a quand même de la chance, on est dans l'Union européenne, on est en France, on a des lois qui nous protègent. Aujourd'hui, qui nous protègent, quelle que soit l'exposition qui est la nôtre, que ce soit des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit, des émissions électriques, enfin, quel que soit aujourd'hui le segment, aujourd'hui on a des lois qui nous protègent. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler à nos concitoyens, parce que souvent on met de l'émotionnel dans le débat public, on fait du sensationnel, on fait du buzz, mais la réalité c'est qu'on est dans un monde extrêmement complexe où finalement il y a différents intérêts qui se rencontrent, et nous, notre rôle en tout cas d'élus locaux, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter, trouver sa place et réussir à avancer en ayant aussi la conscience sociale des choses, parce que notre but, ben, quand on dit on veut aider ces entreprises-là, notre but c'est d'avoir le plus d'emplois possible pour évidemment, nous, la métropole paye le RSA, paye les prestations sociales, ben, pour que tout ça fonctionne, il faut bien qu'il y ait des entreprises derrière qui créent de la richesse, qui créent de la valeur. Et donc c'est pour ça que nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de veiller à cet équilibre. On est élu pour ça, on est élu, si on est bon, eh ben, on est réélu, si on est moins bon, on ne l'est pas, mais en tout cas, notre rôle, c'est de veiller à tout ça.
Mais est-ce que, je dépasse un peu le débat, est-ce que dans le principe de précaution, hein, qui est très fort en France, on en fait déjà un peu trop, c'est-à-dire de se dire, on délimite le terrain, finalement, on prend pas de risque, on essaye d'avoir des normes un peu plus draconiennes que les autres.
Mais aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on a des normes qui sont plus draconiennes que l'ensemble de nos concurrents mondiaux. Parce que quand on a une entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas en concurrence avec celle de Givors ou de Villefranche. Elle est en concurrence avec la Corée du Sud, avec les États-Unis, avec l'Amérique latine. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Et donc, pour que nos intérêts puissent prévaloir, on a des lois qui nous protègent, mais qui permettent quand même à toutes ces entreprises d'avancer. Et puis aussi, il faut rappeler quelque chose, c'est que certains se revendiquent chercheurs, connaisseurs, etc., alors qu'en réalité, ils n'ont pas plus de connaissances que tous ceux qui produisent ces technologies-là et qui, eux, ont étudié et ont mené les enquêtes de fond pour justement savoir quelle est l'exposition de nos concitoyens. Et c'est aussi important de les écouter, parce que c'est pas parce qu'une entreprise produit une étude qu'elle est forcément fausse. Et Philippe Cochet le disait très justement tout à l'heure, on a tendance à croire que Si c'est une entreprise privée qui l'a fait, c'est forcément faux. Maintenant, je pense qu'au contraire, il faut faire confiance à ceux qui savent, à ceux qui ont l'expérience, parce que quand on a plus de 60 ans d'existence sur le territoire français, on a un savoir-faire, on a une connaissance, on a déjà eu peut-être des problèmes à régler, et donc c'est pour ça qu'on doit faire confiance à ces acteurs.
D'ailleurs, pour en savoir plus, c'est vrai que vous éditez des fiches chez TDF autour des ondes, justement, les réseaux télécoms en toute sécurité. Tiens, pour les bailleurs, il y a également équipement télécom, comment optimiser le rendement de votre parc immobilier grâce justement à l'installation de ces antennes. Vous me disiez également, Plante Savelli, que ces antennes, elles sont en train de se réduire aussi, hein, c'est-à-dire qu'elles s'intègrent de plus en plus dans le paysage. Il y en a certaines même qui sont invisibles.
Alors, il y a un effort très important qui est fait au sens de l'intégration paysagère. Et dès qu'on va être dans des zones très tendues où l'acceptabilité peut être un petit peu plus faible, on peut travailler à des intégrations en fausses cheminées, en des antennes qui vont être en façade mais complètement masquées, habillées. C'est un coût, bien sûr, mais bon, c'est un coût qui est porté aussi par toute la communauté télécom.
Parce que, c'est un confort visuel et
il faut faire avancer le réseau, et nous sommes tous sensibles à la beauté de nos villes. Et donc, c'est vrai que la France est très protégée par rapport à d'autres pays. J'ai vu aujourd'hui, on m'a envoyé une photo de Madrid avec un immeuble magnifique qui vient d'être rénové. Il y avait 7 antennes dessus. Voilà, donc aujourd'hui, ça, c'est un vrai pouvoir que la France, que les législateurs ont eu de nous contraindre un petit peu à encadrer et à bien intégrer visuellement ces antennes qui sont de plus en plus présentes dans notre quotidien.
Et voilà, et à ce moment-là, c'est vrai que si ça ne se voit pas, à ce moment-là, bon, on peut imaginer et qu'en plus, ça ramène des ressources pour le bailleur, c'est plutôt pas mal. Oui, Pierre-Oliver.
C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du centre-ville de Lyon, nous, on est dans un secteur UNESCO, et donc on a une large partie de nos toitures, de nos façades qui sont classées sur toute cette partie de Lyon. Et donc, évidemment, que l'intégration, aujourd'hui, est prévue, et l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, travaillent à cette intégration. Et c'est vrai que c'est important, aujourd'hui, d'avoir des paysages qui sont esthétiquement beaux. En tout cas, c'est ce qui fait rayonner aussi une ville, et en tout cas la nôtre.
Philippe Martin aussi, je voulais vous entendre sur ce sujet. C'est vrai que c'est important aujourd'hui. Il ne faut pas simplement que ça soit confortable. Les gens ont envie aussi de s'identifier, d'avoir un habitat agréable et joli. C'est pas pour être dénaturé, effectivement, par, comme disait, 5, 7, 10 antennes sur le toit.
Exactement. Donc nous, ce qu'on essaye de faire avec TDF quand on travaille ensemble, c'est effectivement d'avoir un projet architectural qui s'intègre au mieux et qui soit à la fois présenté aux locataires pour l'accessibilité et à la fois avec les collectivités. Parce que de toute façon, c'est soit des déclarations de travaux, soit des permis de construire sur ces sujets-là. Et donc, ce sont des sujets qui doivent être pris en compte dès l'origine et dès la potentialité, dès l'opportunité d'une installation sur une toiture.
Et sachant, concernant une commune, le moche coûte aussi cher que le beau. Donc essayons peut-être d'aller dans ce sens-là. Et en tout cas, nous, on y est très attentifs. Et c'est vrai que, comme vous l'indiquez, c'est un permis de construire, donc il permet quand même de discuter avec la collectivité pour essayer de trouver la moins mauvaise des solutions. Mais d'une manière générale, on comprend la nécessité de déployer rapidement un certain nombre d'antennes. C'est logique, etc. Mais la rapidité ne doit pas non plus enlever l'esthétisme et puis le respect, bien sûr, des habitants et en particulier des locataires au sein notamment des bâtiments qui portent à ce moment-là les antennes qui sont requises.
Respect des habitants, concertation, bien sûr, conscience sanitaire et puis demain peut-être des antennes encore plus petites, encore plus invisibles du côté de TDF. Vous y travaillez, il y a de la R&D évidemment dans vos techniques.
Alors, comme je vous le disais en introduction, nous TDF, on n'exploite pas ces antennes. Les antennes sont propriétés des opérateurs télécoms.
Du moins les mâts, etc.
Nous, les mâts, voilà, on va être sur la structure métallique. Oui. Et la structure métallique, on la date aux besoins de l'opérateur. Et donc, chaque projet est unique. On ne déploie pas massivement. Voilà, il y a une concertation pour chaque projet. Donc, oui, il y a des travaux qui sont faits au niveau de la taille des antennes. Mais là, c'est des équipes entières qui travaillent sur ces choses-là avec les opérateurs télécoms.
Voilà, et donc ça, on espère que ça s'améliorera. Peut-être un jour, tout sera complètement caché et intégré. Voilà, dans le déploiement ou dans le développement numérique, c'est aussi un enjeu, on en a parlé, réduire la fracture numérique. Bon, pour les entreprises, bien évidemment, c'est fait, que ça soit dans le centre de Lyon, que ça soit un petit peu plus loin dans la métropole. C'est un enjeu, ça va rester très important.
L'enjeu, c'est d'autant plus accéléré que le télétravail devient dans une partie notamment de la population, une nécessité. On voit bien aujourd'hui des annonces qui sont faites, y compris pour des histoires d'économie d'énergie, le fait de dire, bah, écoutez, le télétravail permet de répartir et d'éviter de chauffer des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux. Donc ce sont des éléments qui n'existaient pas il y a 3 ans, qui existent aujourd'hui et qui vont être très prégnants demain. C'est la raison pour laquelle, comme l'indiquait Pierre-Oliver au niveau de Lyon, il ne faut certainement pas être en retrait par rapport à la technologie. Bien au contraire, il faut être ouvert à la technologie, sachant que les choses vont de plus en plus vite. Et n'oublions pas qu'une collectivité, une commune, peut rapidement être derrière et décrocher. Et je pense que cette notion d'acceptation du numérique, elle est non seulement nécessaire, mais elle va permettre, au contraire, de raffermir, de renforcer les collectivités à terme. En tout cas, c'est le partenariat qu'on souhaite avoir. Mais j'insiste bien que le partenariat a évolué positivement dans le temps, alors qu'au départ, c'était « je pose mon antenne et débrouillez-vous ». Ça a bien changé, ça a évolué positivement. Et donc, écoutez, on espère que ça poursuivra dans cette direction.
Ça a évolué aussi parce que vous êtes... vous n'êtes pas les seuls sur le terrain, hein. D'autres essayent évidemment de faire concurrence, enfin, c'est pas un monopole. Hein.
Bien sûr, TDF a des concurrents qui sont arrivés plutôt récemment sur le marché, qui sont issus en fait des opérateurs télécoms eux-mêmes qui ont vendu leur parc de tours, et donc nous avons des concurrents qu'on appelle des towerco, qui font un métier un petit peu similaire au nôtre. Il y a une grande différence, c'est que ce sont des gestionnaires d'un patrimoine immobilier infrastructure, là où TDF, par son histoire, est un acteur industriel complètement intégré avec des bureaux d'études, des expertises et une activité de diffusion en propre pour la télé et la radio, qui fait que nous avons une appréhension un petit peu différente des choses de la diffusion et des relations avec les collectivités, puisque ce sont des partenaires de très longue date sur ces activités historiques.
En tout cas, on en sait un petit peu plus justement sur ce développement numérique du territoire avec et en concertation avec les bailleurs sociaux, sur effectivement les pro-techno versus les pro-sécurité ou précaution. C'est aussi ça le débat public, le débat démocratique. En tout cas, un grand merci messieurs. Pierre-Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon. Philippe Cochet, maire de Caluire-et-Cuire, donc ville connectée, on l'a compris. Philippe Martin, directeur de FDI Habitat, membre adhérent de Procivis. Et enfin, Antoine-Paul Savelli, directeur immobilier et infrastructure chez TDF. Merci à vous et à très bientôt sur notre antenne.
Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.